If you see me walking down the street and I start to cry.
Dance is a Weapon, c'est le titre de l'une des expositions proposées par le Festival de Marseille au Hangar 15 sur le port autonome, une exposition imaginée par le Centre National de la Danse, un centre qui a parmi ses missions de favoriser l'accès à la danse par les moyens les plus divers autres que les spectacles. Dance is a Weapon alterne texte, reproduction photographique et vidéo de danse autour du parcours du groupe de danseurs américain le New Dance Group entre 1930 et 1955. Claire Osier est la commissaire générale de cette exposition. Interview sur la grenouille.
Une idée reçue, selon moi, hein, est que l'art n'a rien à voir avec la politique et que un acte artistique n'est pas un acte politique et un acte politique n'est pas un acte artistique. Alors les philosophes sont beaucoup penchés sur cet aspect des choses et avec le seul partage du sensible, ils ne sont pas du tout dans ces perspectives, mais malgré tout, on a tendance toujours à penser qu'une danse militante ne peut pas être une danse d'art. C'est une idée qui a un petit peu la peau dure. Donc ça m'intéressait de creuser cette idée, de voir ce qu'il y avait derrière. Et donc on se penche à un moment donné, qu'on a fait focus comme ça très important, justement sur un groupe d'artistes qui avait eu un engagement politique extrêmement fort. Donc ça, c'est une des motivations tout à fait importantes qui m'a donné le désir de construire cette exposition.
Donc ça suit le parcours de ce New Dance Group des années 30 au milieu des années 50. C'est un groupe qui était donc fortement lié au Parti communiste américain qui existait avant la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que vous pouvez nous raconter quel a été le parcours de ce groupe de danseurs ?
Ce groupe de danseurs, il naît donc au moment de la Grande Dépression, en 1932, dans un contexte social difficile, politique compliqué, où un parti communiste américain existe, qui a déjà revendiqué que l'art était une arme dans la lutte des classes, organisée sur le même modèle que le PC russe. Et la danse fait partie des groupes de théâtre à ce moment-là. Parallèlement à cela, on a une école qui s'est créée à la suite de la venue de Wigman en 1930 à New York. Et les fondatrices de ce groupe sont toutes issues de cette école. Donc elles ne sont pas issues d'une voie moderne, qui était la voie de l'époque, la voie dominante, mais d'une danse d'expression allemande. Elles sont majoritaires, ce sont toutes des femmes. Elles sont pour beaucoup juives d'origine russe, donc d'une première vague d'immigration, donc très, comment dire, concernées par ces questions. Donc à la suite de, on va dire, de l'assassinat d'Harry Sims, qui était un gréviste, au moment d'une manifestation, c'est un petit peu ce qui déclenche leur désir de fonder le groupe. Donc en 1932, à la suite de l'assassinat d'Harry Sims, elle décide de fonder un groupe où la danse sera porteuse d'un message politique, pas seulement de la splendeur d'une intériorité ou de l'expression de sensations ou de sentiments, mais qu'elle pourra exprimer le quand, le pourquoi, le comment, le d'où on parle, etc., et qu'on pourra situer l'œuvre dans ce qu'elle a à dire dans un propos.
C'était l'idée d'émanciper les masses par la danse ?
Il y avait cette idée, mais les idées, elles étaient multiples. Hein. Il y avait effectivement l'idée d'émanciper les masses par la danse, parce qu'elles font tout un travail d'éducation des ouvriers, des enfants et du danseur inversement. Le danseur est éduqué au marxisme et à la danse en même temps, et on éduque les ouvriers à la danse et on danse dans les syndicats. Mais c'est aussi l'idée donc d'éduquer les masses par la pratique de la danse, éduquer les danseurs à une conscience politique et de produire des œuvres destinées à un large public qui fassent sens par rapport à leurs conditions de vie.
Et quels étaient les types d'images que produisaient les chorégraphies de cette époque-là ?
Dans les années 30, on est dans une figuration assez réaliste. Hein. On a reproché souvent au groupe d'être proche de la pantomime par rapport aux situations données. Donc au début, ce ne sont pas des groupes virtuoses. D'abord, ils vont acquérir leur métier au fil du temps, mais dans quelque chose d'assez significatif au premier degré. Mais déjà, ils vont utiliser non seulement le corps et la danse, et parfois dans des veines beaucoup plus abstraites, mais aussi le texte, qui sera très important, et la musique. Donc quand physiquement, j'ai envie de dire, ils se dégagent par l'utilisation de la musique, ils peuvent faire passer un message politique, ils peuvent être dans une forme d'expression plus abstraite, plus mélangés, plus distanciés par rapport aux situations qu'ils souhaitent évoquer. Et notamment, il y a une œuvre qui est extrêmement emblématique de cette première période. C'est celle d'une artiste qui s'appelle Tan Dudley, qui a fait un solo qui s'appelle Tenant of the Street, et qui figure donc une homeless, donc une femme sans abri, d'une très grande pureté et d'un très grand dépouillement. La bande sonore sont, et ça c'est très nouveau pour l'époque, uniquement des bruits de la rue. Et on voit cette femme dans une très grande économie de gestes et de mouvements et d'écriture, juste vaquer à tuer le temps.
Donc ensuite arrive la Seconde Guerre mondiale et là le groupe de danseurs va se retrouver face à un petit problème. Il y a le pacte germano-soviétique et du coup ils sont un peu en porte-à-faux.
Oui, alors ça c'est très important, mais avant, je crois qu'avant, ils ont déjà évolué si vous voulez. Quand Roosevelt devient président des États-Unis, il soutient la culture et Roosevelt va mener une politique de gauche. Donc ils auront déjà eux-mêmes bougé et ils auront pris plus de confiance dans leur pays au travers de la politique de Roosevelt et donc ils vont rester fidèles à leur idéologie. Qui est une idéologie humanitaire, on va dire, humaniste. Et grâce à ces programmes soutenus par Roosevelt, ils vont acquérir beaucoup de professionnalisme. Donc ils vont investir, les scènes de Broadway, etc., etc. Donc ils ont déjà, à ce moment-là, acquis un véritable bagage. Et simultanément, effectivement, au moment du pacte germano-soviétique, ils sont en porte-à-faux parce qu'ils sont contre le fascisme et donc contre les nazis. Donc ils vont prendre beaucoup de recul. Donc au moment où les États-Unis mènent une politique plus à gauche, même le PC même américain va reconnaître aussi la politique de Roosevelt, politique qui lui sera reprochée au demeurant par son voisin américain, mais du coup il déplace un petit peu et donc d'une danse d'opposition ils vont se transformer en une danse américaine qui est une danse de revendication et ils considèrent à ce moment-là que la revendication est américaine. Entre les premières danses, qui sont vraiment des danses de masse, des danses de bloc, d'ailleurs extrêmement intéressantes, même sur le plan esthétique, de mon point de vue, là, on évolue vers une danse plus proche des modernes, alors qu'au début, ils se sont opposés aux modernes, qui ont acquis la technique des modernes, et qui se mixent avec elles. Donc, on arrive à des formes originales, moderne, mais qui, malgré tout, porte toujours un message politique, on va dire.
La guerre se termine, que devient le New Dance Group ?
Alors la guerre se termine, la danse devient une espèce de porte de drapeau des États-Unis. Les États-Unis luttent contre une image d'Américains qui sont des cow-boys qui mâchent du chewing-gum, etc. Et donc ont envie de donner une autre image des États-Unis, raffinée, intellectuelle, proche des arts. Donc la danse est beaucoup soutenue, elle peut tourner, voyager dans le monde, il n'y a pas la barrière de la langue. Donc à nouveau, ils vont se confronter à des publics variés aux États-Unis et en dehors des États-Unis. Donc ils acquièrent à nouveau de plus en plus de métiers, de plus en plus de notoriété. Souvent sur leur nom individuellement et de moins en moins sur le nom du collectif. Pourquoi ? Qui les dessert. Parce que le collectif renvoie toujours à cette question du communisme. Alors, en tant que collectif, ils n'ont jamais revendiqué d'appartenir au Parti communiste parce que ça aurait été extrêmement dangereux pour eux, mais on le lit au travers de toutes leurs phrases, de tout leur système d'organisation, enfin, c'est criant. Et c'est plus facile à cette époque-là de revendiquer un parcours original d'artiste plutôt que celui aussi d'un collectif. Il doit y avoir des tensions entre les individus et le collectif, bien qu'ils soient toujours attachés au collectif.
Et puis après la guerre, on est en plein maccartisme.
Alors, voilà. Mais en même temps, donc, à la fois, il se développe, de plus en plus de succès, de plus en plus de tournées, mais évidemment, maccartisme et le maccartisme qui va dénoncer très clairement une dance group comme un foyer rouge. Donc un certain nombre d'entre eux vont être particulièrement épinglés et particulièrement mis à l'épreuve.
Et d'ailleurs, il y en a qui vont céder aux pressions ?
Il y en a qui vont céder aux pressions. Le principe, c'était de désigner un certain nombre de personnalités qui avaient eu maille de près ou de loin, d'ailleurs, avec le Parti communiste. Et la façon pour eux de s'en sortir, c'était de donner d'autres noms. Donc Jérôme Robbins, qui s'était revendiqué comme tous les artistes de l'époque, qui étaient plus ou moins proches de l'intelligentsia de gauche, donc proches du Parti communiste, en fait, va, au moment où il a beaucoup de succès à Broadway, proche d'Hollywood, va être épinglé et il donnera des noms, et notamment des noms des fondatrices qui auront beaucoup de difficultés après.
Donc vous arrêtez à peu près dans cette exposition Dance is a Weapon, le parcours de ce groupe à cette époque-là, un peu au milieu des années 50, c'est-à-dire bon, macartisme, la guerre froide, tout ça, alors que le New Dance Group existe toujours aujourd'hui. Pourquoi vous avez choisi d'arrêter à ce moment-là ?
On a choisi d'arrêter parce qu'on sort effectivement de la grande période des combats politiques, alors que vraiment l'exposition était centrée sur cette période. C'est le moment où ils achètent un immeuble à Broadway, hein, donc ils rentrent de plein pied cette fois-ci dans le régime capitaliste dans lequel ils vont donner des cours. Et au fil du temps, en tant que groupe, ils vont devenir une école, simplement ils vont rester comme école. Et c'est plus chacun individuellement qui va développer sa carrière dans le monde entier avec des artistes extrêmement connus et reconnus comme Sokolo, Daniel Lagrange, Charles Weidman, etc. Et la figure du groupe va disparaître. Mais ça reste toujours une très grande nostalgie pour eux.
If you see me walking down the street and I start to cry each time we meet, walk on by.
C'était Claire Rosier du Centre National de la Danse. L'exposition Dance is a Weapon dans le cadre du Festival de Marseille est à voir au Hangar 15 jusqu'au 12 juillet 2008. Entrée libre, contact info au 04 91 99 02 50.